Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les start-up tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces.
L'idée, c'est de trouver, on va dire, un juste milieu entre la protection des créations et le développement de l'innovation.
Bonjour Clara Viguier.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes avocate, experte en propriété intellectuelle et notamment dans le domaine du numérique. Alors, on parle énormément depuis l'avènement des IA génératives des problèmes de droit d'auteur que posent ces fameuses IA. Moi, je vous la pose la question, en quoi l'intelligence artificielle pose-t-elle un problème de droit d'auteur ?
En matière d'intelligence artificielle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des interrogations qui peuvent se poser en matière de droit d'auteur sur deux plans. Au regard de toutes les données qui sont intégrées, on va dire, par l'outil d'intelligence artificielle pour faire travailler, entre guillemets, la machine, à savoir que l'outil d'intelligence artificielle se fonde sur des données qui peuvent potentiellement porter sur des créations qui sont protégées par un droit d'auteur, à savoir des contenus, du texte, des vidéos, des photos, des images, etc.
Oui, et en donc fait, c'est des articles de journaux, des contenus de blog, des choses comme
c'est
ça.
C'est exactement ça. Exactement
qui ça. Donc, qui servent à entraîner les modèles.
C'est exactement ça. Donc, à savoir, est-ce que finalement, ils peuvent entraîner leurs modèles sur le fondement de contenus protégés par un droit d'auteur sans l'autorisation préalable des ayants droit, donc des titulaires du droit d'auteur. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est quant aux œuvres qui sont, enfin, aux œuvres à tous les contenus qui sont générés par le biais des intelligences artificielles et savoir si ces contenus qui sont générés uniquement par une machine peuvent être éventuellement protégés par un droit d'auteur. Et donc, dans quelle mesure, finalement, on a le droit de les exploiter, on peut les revendre. Et notamment, je parle dans le secteur, par exemple, de la création. Lorsque l'on est un créateur et que l'on fait appel, justement, à ces outils d'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut se prévaloir de droits d'auteur sur toutes ces créations, donc images, photos, films vidéo, musique, etc., qui sont générés par le biais de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment les deux points d'interrogation à ce stade qui sont liés à l'usage, on va dire, de cet outil et aux problématiques en matière de droit d'auteur.
Alors, si on les prend l'un après l'autre, ces deux aspects. Donc, d'abord, en ce qui concerne l'entraînement des modèles à partir des contenus qui existent déjà. Il y a une affaire qui est en train de faire beaucoup de bruit aux États-Unis. C'est le New York Times qui a attaqué OpenAI, la maison mère de ChatGPT, en l'accusant d'avoir pompé ses articles, en fait, pour rendre son modèle intelligent. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que, effectivement, il y a un problème juridique qui se pose? Est-ce que le même type de problème pourrait se poser chez nous en France et en Europe?
Alors, effectivement, oui, le même type de problème pourrait se poser chez nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue juridique, on est chacun soumis à notre propre législation. Donc, la législation aux États-Unis n'est pas la même que la législation en France, qui est soumise notamment au droit de l'Union européenne. Donc, aux États-Unis, eux, le débat va notamment porter sur la notion de fair use, qui est une notion qui est propre vraiment à la législation américaine. En France, on pourrait avoir effectivement le même type de problématique. Et à ce stade, aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs et de sociétés qui détiennent des droits d'auteur, etc., des sociétés de gestion collective, etc., et également qui sont en charge de la protection aussi de d'œuvres créées donc par des créateurs.
Oui, parce que c'est aussi la musique,
le
film, les films, la vidéo, etc.
Ouais,
en fait.
C'est exactement ça. Et donc, qui considèrent que l'utilisation effectivement de ces tout l'ensemble de ces contenus protégés par des droits d'auteur sans l'autorisation préalable de ces auteurs sont de nature à porter atteinte à leurs droits. Alors, la question qui se pose, notamment donc en droit français, qui est vue à la lumière du droit de l'Union européenne, c'est est-ce que effectivement on peut considérer ici qu'il y a une contrefaçon ? Par définition, une contrefaçon, c'est lorsqu'il y a une reproduction d'un contenu en vue d'une communication auprès d'un public. Donc, il y a différentes positions qui s'opposent. Il existe en France et même en Europe la notion de fouille de texte. La notion de fouille de texte, c'est quoi ? C'est une exception légale en matière de droit d'auteur qui autorise finalement toute entité à pouvoir faire de la fouille de texte. Donc, c'est de la fouille de données. Même pour quelle que soit la finalité, donc même dans le cas d'une finalité commerciale, sous réserve que les titulaires de droit ne s'y opposent pas fermement. Donc, c'est sous réserve finalement qu'il n'y ait pas une sorte d'opt-out qui soit mise en place par les titulaires de droit. Donc là, à ce stade, d'ores et déjà, il existe beaucoup de créateurs, de sociétés, même des sociétés de gestion collective, qui ont fait valoir leur volonté expresse de s'opposer par le biais de cette notion d'opt-out à ce que tous ces contenus protégés par des droits d'auteur soient réutilisés par ces outils donc d'intelligence artificielle.
C'est-à-dire qu'ils prennent les devants, en quelque sorte.
Ils prennent les devants, c'est ça. Sachant que cette notion d'opt-out, elle peut être signifiée par tout moyen. Donc, ça peut être, par exemple, indiqué dans les conditions générales d'utilisation. Ça peut être notifié également d'un point de vue plus, on va dire, technique, par des mesures de sécurité qui vont être mises en place sur les contenus qui sont créés pour éviter justement qu'ils soient réutilisés par la suite. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion d'opt-out. Donc, c'est avoir, en tout cas, adopté une position défensive vis-à-vis de cette réutilisation parce que par principe, sinon, on pourrait considérer que si on n'a pas pris les devants pour empêcher que ces contenus soient réutilisés, ça s'inscrit dans cette exception légale de fouille de texte. Donc ça, c'est le premier point. Il y a quand même un autre point à savoir, donc ça, c'est les discussions, hein, bien sûr, qui sont en cours d'un point de vue purement juridique, sachant qu'à ce stade, il n'y a encore aucune décision qui n'a été rendue par les tribunaux. Ça reste en cours de discussion également d'un point de vue européen et puis également en France.
Oui, mais ça voilà, a fait l'objet... ça a fait l'objet, c'était dans le cadre des discussions sur l'AI Act, le règlement européen sur l'IA récemment validé.
Effectivement, après ce règlement est plus général. Il ne se concentre pas uniquement sur les problématiques qui sont liées à la propriété intellectuelle, mais quoi qu'il en soit, ça, par rapport notamment aux intelligences artificielles de nature générative, il y a une obligation de transparence qui leur serait imposée, à savoir qu'elles vont avoir l'obligation d'indiquer finalement quelles sont les sources et à partir de quelles données finalement elles sont entraînées. Donc après, il n'y a pas plus de précision sur ce point et donc quelle sera finalement la nature de cette transparence, à savoir indiquer toute la liste des sources ou uniquement de faire état, par exemple, du fait que l'entraînement a porté sur des articles de presse, sur des articles sur de la musique, sur des vidéos, etc. Mais il y a effectivement cette obligation de transparence qui est prévue par le texte.
On peut imaginer que les ayants droit cherchent à protéger leur contenu par principe pour pas se faire piller, mais aussi parce que il y a peut-être des perspectives de monétisation derrière.
Oui, c'est effectivement la difficulté par rapport à ça, c'est que si l'on part du principe que beaucoup de créations sont effectivement exploitées à des fins d'entraînement, il y a effectivement l'utilisation de ces exploits, de ces créations sans autorisation préalable, mais également un manque à gagner certain pour les créateurs qui ne bénéficient pas finalement des retombées financières qu'ils devraient percevoir du fait de l'utilisation de leur création. La difficulté par rapport à ça aussi, c'est comment monétiser finalement. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de discussions qui sont en cours pour, en pratique, pouvoir permettre une monétisation équitable, une monétisation juste et savoir finalement comment le calculer et comment le mettre en place.
À l'inverse, si les modèles d'intelligence artificielle ne peuvent pas accéder à toute cette richesse de contenu qui existe aujourd'hui,
du coup, ça va les affaiblir, ils seront moins performants. Et j'irai plus loin, c'est une petite musique qu'on entend depuis de longues années, en fait, hein, même avant l'arrivée des IA génératives, mais depuis l'économie du numérique. Le droit d'auteur est à la fois protecteur et en même temps, c'est un peu un handicap pour le développement économique du numérique dans bien des domaines.
C'est effectivement cela. Après, l'idée, c'est de trouver, on va dire, un juste milieu entre l'innovation, le développement de ces outils, de cette innovation qui est immense et qui est très bénéfique, hein, bien entendu, pour tous, hein, parce que même de nombreux créateurs, hein, utilisent ces outils et voilà, ça participe, on va dire, à la croissance commune. À côté de ça, c'est trouver donc effectivement ce juste équilibre entre la protection des créations et le développement de l'innovation. Je sais qu'au niveau de l'IA Act, c'est quelque chose justement qui est mis en balance. En France, il y a une proposition qui a été de loi qui porte justement sur l'intelligence artificielle, mais qui vise plutôt à renforcer les droits de propriété intellectuelle par rapport à ce point. Donc après, voilà, c'est tout des sujets de débat pour essayer de voir comment mettre cela en place. Sachant que à ce stade, il n'y a pas non plus un vide juridique, il y a un arsenal juridique qui existe et que l'on peut mettre en place et qu'il s'agit bien entendu d'adapter à la lumière de l'ensemble de ces innovations.
Mais on n'est quand même qu'au début de l'histoire.
On n'est qu'au début de l'histoire. Après, voilà, moi, je le vois d'un point de vue doctrinal, donc à la lumière de nos réflexions entre praticiens d'un point de vue juridique, dans la mesure où encore aucun tribunal ne s'est prononcé. Et en fait, on transpose finalement ce qui a pu être envisagé avec d'autres innovations telles que le développement d'Internet à l'époque, le développement des plateformes de streaming, etc. Typiquement, il y a une piste de réflexion qui a été qui est en cours de réflexion et qui me paraît tout à fait intéressante aussi, c'est à savoir, donc, est-ce que l'on rentre dans le champ de la contrefaçon ? Typiquement, pour qu'il y ait une contrefaçon dès lors que l'on exploite des créations, il faut qu'il y ait une reproduction à des fins de communication au public. Et ça, à cet effet, par exemple, la Cour de justice de l'Union européenne s'était prononcée sur la reprise de samples, donc notamment de musique, aux fins d'être samplées pour créer de nouvelles musiques. Donc, l'idée, c'est, ce n'est pas parce que des choses sont déjà protégées qu'on ne peut pas les réexploiter, les réutiliser pour développer de nouvelles créations, de nouveaux outils, etc. Et là, en l'espèce, donc, on partait d'une musique préexistante pour la sampler, mais d'une telle manière que la nouvelle musique qui finalement était réalisée ne ressemblait plus en aucun point aux musiques précédentes. Et là, en l'espèce, la Cour de justice, qui est quand même le tribunal au top du top, hein, a considéré que, en l'espèce, il n'y avait pas de contrefaçon parce que les différences étaient telles que entre les créations premières et la création finale, finalement, il n'y avait plus aucune ressemblance. D'accord. Donc là, c'est quelque chose aussi qui pourrait être envisagé, à considérer que peut-être qu'il y a une exploitation de créations protégées par des droits d'auteur éventuellement, mais que in fine, elles sont tellement, manipulées, elles sont tellement exploitées, etc., que finalement, les créations qui sont générées par la suite ne sont que des parties infirmes des créations premières. Ouais. Et donc, qu'il n'y a pas une simple reproduction en vue d'une communication. Et donc, ça ne s'inscrit pas nécessairement dans une contrefaçon.
Ce ne serait pas une très bonne nouvelle pour les ayants droit, ça.
Ça fait partie des pistes de réflexion, effectivement.
D'accord, ouais. Et puis, encore une question là-dessus avant de voir le deuxième aspect lié au des droits d'auteur. Pour reparler de l'affaire entre New York Times et OpenAI, ce qui est intéressant, c'est qu'OpenAI récemment a contre-attaqué en accusant le New York Times d'avoir en fait fait une utilisation de ce moteur de recherche inadéquate. En gros, ils ont fait des prompts tellement tarabiscotés qui sont arrivés au résultat qu'ils espéraient, qui prouveraient que les contenus du New York Times ont été pillés. Mais OpenAI se défend en disant que personne n'utilise le moteur de recherche comme ça et que c'est même interdit par la plateforme. Parce qu'il faut rappeler que la difficulté pour ces outils aussi, c'est qu'ils n'indiquent jamais leurs sources. Donc là, est-ce qu'on n'est pas face à un mur, en fait ?
La difficulté, c'est justement d'imposer cette transparence. Donc ça, c'est ce qui est souhaité par l'IA Act, notamment. Et effectivement, du côté des ayants droit, ce qui est compliqué, c'est de réussir à rapporter la preuve de l'exploitation illicite de l'ensemble des créations. Oui. Après, je sais qu'il y a des outils qui sont à disposition qui permettent aussi de pouvoir identifier si finalement certaines créations ont déjà été exploitées par des intelligences artificielles. Et je pense que à terme, on va pouvoir justement réussir à démontrer ces éléments-là. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est que lorsque l'on agit en contrefaçon, il faut être à même de rapporter la preuve de ce que l'on allègue. Et on ne peut pas uniquement se fonder sur des présomptions. Et donc, il faut être à même de démontrer que, là, effectivement, dans ce cas précis, par exemple pour OpenAI, que OpenAI a effectivement entraîné sa machine sur des articles du New York Times, etc. Donc, c'est vraiment de démontrer de la réalité de cette exploitation.
Alors, deuxième aspect, Clara Viguier, de ce problème de droit d'auteur avec l'intelligence artificielle, c'est donc la création. Si, par exemple, je suis un artiste et j'utilise Midjourney ou DALL-E pour faire des œuvres, on va dire plutôt des images, mais on peut le faire aussi avec des textes, mais qu'en même temps, j'imprime ma propre patte de créateur, finalement que j'utilise l'IA comme un outil, même comme un pinceau ou autre chose, est-ce que je peux protéger ces œuvres pour éviter qu'on me les pique, en fait ?
Alors, en matière de droit français, et puis même en matière de, en matière de droit français, en droit d'auteur, les œuvres ne font pas l'objet de dépôt. Donc, par définition, elles sont protégées à compter de leur divulgation sur un support tangible, sous réserve d'être originales. Cette notion d'originalité, c'est la notion essentielle en matière de droit d'auteur. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de réaliser du contenu pour qu'il soit nécessairement protégé. Et il faut être à même de démontrer qu'on a effectué des choix créatifs qui nous sont propres, qui témoignent finalement de notre vision et de démontrer que cette œuvre porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
D'accord.
Ça, sur ce point-là, il y a énormément de décisions sur ce point et qui viennent vraiment à dire que seul l'auteur doit justifier de l'ensemble de ses choix créatifs. Donc, la question qui s'est posée en matière d'intelligence artificielle, ça n'a pas encore été jugé en France, mais ça a été jugé à ce stade aux États-Unis par plusieurs décisions et en Chine. C'est que, alors, aux États-Unis, typiquement, ils ont refusé de considérer qu'une œuvre qui avait été uniquement générée par de l'intelligence artificielle était protégée par un droit d'auteur. Pourquoi ? Parce que, alors même que les prompts qui étaient réalisés par l'auteur ou l'utilisateur allaient à un détail tel qu'ils étaient extrêmement définis, etc., finalement, la création qui était générée par l'intelligence artificielle n'était que le fruit du hasard. Enfin, grâce au prompt,
d'un hasard,
mais finalement, cette création n'avait aucun lien direct, on va dire, avec les choix créatifs propres à l'auteur. Et donc, la création qui était issue par cette intelligence artificielle, qui était générée par cette intelligence artificielle, de facto, ne pouvait pas être protégée par un droit d'auteur. En Chine, il y a une décision contraire, qui a été établie à la lumière de la législation chinoise, qui a admis qu'une œuvre générée par intelligence artificielle était protégée par un droit d'auteur. En France, à la lumière de la jurisprudence actuelle et de notre vision du droit d'auteur, en fait, la position pourrait être la suivante, sachant qu'à ce stade, aucune décision encore n'a été jugée en France, c'est que finalement, soit on voit l'intelligence artificielle comme un simple outil qui permet aux créateurs de créer du contenu, c'est-à-dire qu'ils génèrent des images, qu'ils retravaillent eux-mêmes par la suite, qu'ils apportent des éléments esthétiques complémentaires. Et donc, dans ce cas-là, tout le travail qui va être réalisé par l'auteur, en utilisant l'outil d'IA, l'IA comme un simple outil, de la même manière qu'une caméra, qu'un appareil photo, etc. Là, à la lumière finalement de toutes les démarches créatives entreprises par l'auteur, la création pourrait éventuellement être protégée par un droit d'auteur. En revanche, si le créateur génère uniquement des images, uniquement grâce à un prompt, mais qu'il ne retravaille pas par la suite ces images, là, les créations pourraient difficilement, à mon sens, être considérées comme protégées par un droit d'auteur. Donc ça, c'est quelque chose à avoir à l'esprit, notamment quand on est créateur, notamment lorsque c'est l'essence même de notre travail et que l'on revend par la suite nos créations, par exemple, à un client, de savoir que de facto, on a les créations que l'on vend à notre client, si jamais elles ont été uniquement générées par de l'IA et qu'on n'a pas réalisé de démarches complémentaires par la suite, ces créations ne sont pas protégées par un droit d'auteur. Donc, ça veut dire que notre client, si un jour il est victime de contrefaçon, il ne pourra pas agir en contrefaçon, typiquement.
D'accord.
Donc,
on est quand même, on voit qu'on est quand même sur le fil du rasoir.
C'est ça, c'est effectivement ça. Donc après, typiquement, j'avais eu l'occasion d'en discuter avec des éditeurs de qui travaillent beaucoup justement avec de l'intelligence artificielle et qui permettent de générer des images. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient en place finalement des données qui permettent à chaque utilisateur de justifier finalement des prompts réalisés, des choix créatifs entrepris pour, en cas de difficulté, de démontrer finalement quelle est la marge de manœuvre créatrice, qu'ils ont pu avoir lors de la réalisation de l'œuvre.
Ouais, et on peut imaginer que peut-être un jour, les juges, plus que d'analyser les images, analyseront les prompts, en fait.
Ils pourraient analyser les prompts. Après, ça va être vraiment le travail de l'auteur de démontrer en quoi ces prompts témoignent vraiment de ses efforts créatifs. Et encore, à la lumière vraiment de ce que les tribunaux américains ont pu dire, c'est qu'ils jouaient vraiment sur cette notion de hasard, sur le fait que finalement, même si on a des prompts qui sont extrêmement précis et très détaillés et qui pourraient témoigner finalement d'une certaine empreinte créatrice, la création qui est générée in fine n'est pas le strict processus créatif, de l'auteur, mais ne résulte que de la machine.
Ouais.
Donc après, voilà, c'est cette difficulté-là que l'on pourrait avoir en matière de droit d'auteur.
Et on sait que parfois, le même prompt envoyé plusieurs fois ne donne pas les mêmes résultats.
C'est exactement, oui. D'où justement cette notion de hasard, où finalement il est difficile de tisser un lien finalement entre les choix créatifs, les choix de l'auteur et le résultat final qui est issu de la machine.
Clara, qu'est-ce qu'il faut faire avant de se lancer dans de la création par intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre du coup?
Oui, je pense qu'il y a deux types de précautions. La première, c'est déjà étudier. Alors, je sais que c'est peut-être un petit peu fastidieux pour certains, mais au moins de prendre connaissance des conditions générales d'utilisation, aux conditions générales de vente, des outils que l'on utilise, et notamment pour savoir finalement qui détient la propriété des contenus qui sont générés. À savoir si c'est l'utilisateur ou si ces contenus demeurent la stricte propriété finalement des éditeurs qui proposent ces outils d'IA. Et également...
Ah oui, c'est-à-dire que si je crée une image avec DALL-E, en fait, c'est pas forcément moi qui vais en avoir les droits, ça
oui,
va être...
Oui, puis savoir également dans quelle mesure on a le droit de l'exploiter. Est-ce qu'on a le droit de l'exploiter à des fins commerciales ou est-ce qu'on peut uniquement l'exploiter dans un cadre privé, etc. Donc, c'est pas pour savoir un peu voilà, okay, pour quelle finalité on aurait le droit d'utiliser ces contenus. Et le deuxième point également, c'est peut-être d'utiliser à ce stade, compte tenu notamment de ce flou juridique, et pour éviter et pallier, on va dire, toute difficulté, d'utiliser à ce stade des outils où l'on sait, enfin, pour lesquels on sait dès à présent qu'ils sont entraînés de manière, d'un point de vue purement juridique, de manière licite. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés avec toutes les autorisations requises de la part des ayants droit. Et donc, de facto, on sait qu'il n'y a pas de risque de contrefaçon par la suite. Parce qu'il y a un point qui est extrêmement important lorsqu'on est créateur, et notamment lorsque l'on crée du contenu pour des clients, c'est qu'il y a des garanties quand même. On s'engage à certaines garanties vis-à-vis de notre client, et notamment à ne pas porter atteinte à des droits lorsque l'on réalise un certain contenu. Et donc, si l'on utilise des outils d'IA pour lesquels, éventuellement à l'avenir, il pourrait y avoir un risque de contrefaçon parce qu'elles sont entraînées sur des œuvres pour lesquelles elles n'avaient pas l'autorisation et qu'on venait à dire que ça s'inscrit dans un acte, enfin, dans de la contrefaçon, dans ce cas-là, tous les utilisateurs, par la suite, également, se seraient fondés sur des outils qui, par nature, ne portent pas atteinte à des droits de tiers, etc. Donc, le mieux à ce stade, pour vraiment s'épargner toute difficulté, c'est de faire usage, en tout cas, d'outils qui reposent sur des données dont on sait que, en tout cas, elles ont été exploitées de manière licite et avec toutes les autorisations requises de la part des ayants droit.
Est-ce qu'on sait si les outils les plus connus, DALL-E, Midjourney, etc., sont dans ce cas-là aujourd'hui?
Non, pas à ce stade. pas à ce stade.
Non, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ou c'est qu'ils ne sont pas dans ce cas-là, vous voulez dire?
Ils font l'objet de débats, notamment par exemple par rapport à OpenAI et GPT-4, enfin ChatGPT, etc. Ils font l'objet actuellement de procédures, sachant que ils ont été entraînés sur la base d'énormément de données et donc par définition, on ne sait pas aujourd'hui si ces utilisations étaient licites ou non. Donc, il vaut mieux peut-être éviter, en tout cas si vraiment on utilise ces outils dans un cadre commercial et qu'on le revend par la suite à des fins commerciales des contenus qui ont été générés par ces outils,
de prendre
toutes les précautions requises pour limiter ce type de difficultés.
Voilà, écoutez, je pense que ça intéressera beaucoup tous ceux qui déjà ont commencé à créer grâce à l'IA, parce que ça devient une réalité. Des artistes de plus en plus s'emparent de l'intelligence artificielle pour réaliser de véritables œuvres, mais on voit que bien, ils ont intérêt à bien réfléchir à tout ça. Oui. Merci beaucoup, Clara Viguier. Je rappelle que vous êtes avocate et experte en propriété intellectuelle. Merci.
Merci, Jean.